Et oui, c'est la suite du Club de l'été avec Cyril Ferraud qui est toujours là, toujours avec le sourire, et ça c'est un bonheur. C'est l'heure maintenant de notre coup de fil média, et aujourd'hui on va parler d'eux. On a un gros DJ en régie. Il fait des enchaînements de fou furieux. Attends, il va retenter un truc là. Ah ouais. Ah ouais. Ah bah là, celui-là, il part carrément pas. C'est un grand succès, Ciel, cet enchaînement.
On n'a pas les droits, en fait. Il va falloir le chanter.
On n'aura pas Love Yourself to Dance ? Si, il va venir peut-être à un moment. Ah bah voilà. Voilà. Ça, c'est le dernier album de Daft Punk.
Ah mais Pharrell Williams s'est fâché là, il arrive ? Normalement oui.
Là on entend la guitare. Et ça c'est du très très bon. On va vous parler des Daft Punk aujourd'hui. Bonjour Grégoire Delhost.
Bonjour Thomas.
Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste au magazine Society, édité par le groupe So Press. Alors après votre saga exceptionnelle l'an dernier sur Xavier Dupont de Ligonnès, vous consacrez votre enquête de l'été aux coulisses de la séparation de Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem Christo, les deux Daft Punk, c'était en février dernier. Vous vous êtes lancé tout de suite dans cette enquête dès qu'on a appris leur séparation ?
Oui, en fait, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis plusieurs mois maintenant avec mon collègue Raphaël Malkin. Comme beaucoup d'autres, on a été très surpris le 22 février lorsque les Daft Punk ont diffusé cette vidéo extrait de leur film Electroma et qui annonçait donc la fin du groupe. Mmh. Et à partir de là, on a voulu comprendre les dernières années de ce groupe hors normes, le groupe français le plus connu et de loin le plus influent à l'international. Et en fait, on a voulu raconter cette période des dernières années parce que l'histoire du début des Daft Punk et celle aussi de leur succès dans les années 2000 a déjà été beaucoup documenté avec des livres, des articles, un très bon documentaire. Et donc, on se souvient tous des Grammy Awards et du triomphe des deux robots, mais en revanche, on sait moins de choses sur la suite.
Vous revenez justement sur cette grande soirée des Grammy Awards à Los Angeles, c'était le 26 janvier 2014. Ils avaient absolument tout raflé ce soir-là, album de l'année, disque de l'année, meilleure performance pop. Ils étaient entièrement en blanc sur scène avec Stevie Wonder, Pharrell Williams, Neil Rogers. Vous écrivez que les Daft Punk, ce jour-là, changent définitivement de dimension. Expliquez-nous ça.
Oui, c'était déjà un groupe évidemment très célèbre avant la sortie de Random Access Memories en 2013. Mais du coup, quelques mois plus tard, en 2014, il y a cette soirée, il y a ce triomphe au Grammy Awards, donc où il récupère 5 récompenses. Et donc, nous, notre ambition avec cet article, c'est vraiment de raconter de l'intérieur, avec un vrai souci du détail, la trajectoire du duo. Et pour ça, étant donné que les Daft Punk ne donnent plus d'interview, on a voulu interroger leurs proches collaborateurs qui nous ont notamment raconté cette grande soirée.
Ouais, vous êtes passé par des proches parce que, alors évidemment, eux, ils n'ont pas voulu vous répondre, mais j'imagine aussi qu'il y a un culte du secret hein, chez Daft Punk. C'était difficile d'obtenir des réponses même de la part des proches.
Dans l'ensemble, les proches, ils ont vraiment été d'accord pour nous parler parce que c'est aussi une aventure qui les a profondément tous marqués. On est allé discuter vraiment avec de très proches collaborateurs, avec des Français bien sûr, comme le directeur artistique Antoine Ressoussière, ou bien DJ Falcon, qui est un musicien et qui apparaît justement sur le disque Random Access Memories dans la dernière piste qui s'appelle Contact. On est aussi allé parler à des Américains.
Ouais.
Parce que les Daft Punk, ces dernières années, ont passé beaucoup de temps à Los Angeles.
Avec une question centrale, c'est pourquoi cette séparation alors qu'ils étaient absolument au sommet. Alors vous formulez plusieurs hypothèses. D'abord, vous dites que c'est peut-être justement parce qu'ils ont atteint le sommet et qu'ils pensaient ne pas pouvoir faire mieux. C'est ça?
Oui, il y a peut-être, peut-être qu'il avait l'impression, sur le plan artistique, d'être arrivé au bout de quelque chose avec, avec le, du coup, leur dernier album, Random Access Memories, parce qu'ils faisaient jouer des musiciens funk et disco, les mêmes qu'ils aimaient sampler des années plus tôt. C'est un peu comme si la boucle était, était bouclée, en quelque sorte, avec, avec ce disque.
Ouais. Autre hypothèse très intéressante, je trouve, vous dites qu'ils se retrouvent plus vraiment dans l'industrie musicale d'aujourd'hui, les chansons calibrées pour TikTok, le streaming, tout ce business, et même, alors vous le dites sur le ton de la plaisanterie, hein, mais le fait que Laetitia Hallyday veuille venir les voir en concert.
Oui, bien sûr, bah c'est aussi l'histoire d'un groupe qui avance dans une époque qui est en train de changer, parce que mine de rien, voilà, les Daft Punk existent depuis presque 30 ans, et c'est vrai qu'avec leur apparence de robot, avec le fait qu'ils créent de la musique électronique, ils ont toujours semblé être une sorte d'incarnation du futur. Ouais. Et puis ces dernières années, on a eu l'impression que voilà, ils avaient préféré peut-être regarder derrière eux. Et d'ailleurs, l'exemple le plus frappant, c'est Random Access Memories, qui a quelque chose vraiment de nostalgique et qui sonne, du coup, comme je disais, comme un hommage à la musique qu'ils écoutaient adolescents, donc le disco, la funk, etc.
Fred. Oui, Grégoire, dans votre article, vers la fin notamment, vous décrivez parfaitement toutes les passions parallèles des deux membres des Daft Punk, le cinéma, la production. Mais on a quand même du mal à croire qu'au bout du compte, la musique ne sera pas plus forte que tout. Est-ce que vous qui avez approché tous les gens qui les ont côtoyés, il y a quand même un petit espoir? Parce que tout le monde s'est dit, quand on a eu cette annonce, c'est un coup de com', peut-être ils vont réannoncer autre chose quelques mois plus tard. Il y a un espoir ou pas, ou c'est mort, Daft Punk, à votre avis?
Alors honnêtement, voilà, j'en sais rien, et je pense que les proches non plus, parce que eux-mêmes en fait ont été très surpris, du coup, le 22 février, ouais, quand la nouvelle est tombée. La plupart, voilà, ils n'étaient pas dans la...
Personne n'était au courant, vraiment.
Dans la confidence. Ceux qu'on a interrogés, ouais, ils ne le savaient pas. D'ailleurs, DJ Falcon, il le raconte bien, il a reçu ce jour-là des dizaines de messages, il était très surpris, il a contacté du coup dans la foulée son ami Thomas Bangalter. Voilà, c'est un groupe étonnant, c'est un groupe fascinant qui a toujours su se renouveler et qui a quelque part toujours su manier un peu le contre-pied. Mais voilà, moi je pense, cela dit, que le groupe est vraiment fini et qu'il faudra désormais suivre pour les fans leur trajectoire solo.
Ou se rediffuser quelques bons moments, comme par exemple ce moment exceptionnel, c'était au Grammy Awards. Daft Punk, histoire secrète d'une séparation, c'est le dernier numéro de Society. Merci beaucoup Grégoire Belloste d'avoir été avec nous ce matin.
Et merci,
je vous renvoie donc vers votre belle enquête en kiosque depuis le 29 juillet. Il y a aussi un papier sur les attaques de requins sur les surfeurs à La Réunion, sur une secte en Bretagne. Enfin, il y a beaucoup de choses dans le magazine Society qui est extrêmement riche et extrêmement bien fait, j'en profite pour le dire.